Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la persévérance dans la prière. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est Jésus qui parle. Il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. » Jésus a enseigné à plusieurs reprises sur la prière. Et la prière, c'est tellement important. Ça nous permet d'être en relation directe avec Dieu. Alors, il nous encourage à nous attendre à Dieu pour tous nos besoins, quels qu'ils soient. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des croyants prient, oui, mais peu finalement persévèrent dans la prière. Les croyants prient quand ils sont dans le besoin, mais ils oublient de persévérer dans la prière. Alors, qu'allez-vous faire si la réponse ne vient pas ? Est-ce que vous allez baisser les bras? Est-ce que vous allez abandonner? Est-ce que vous allez dire « Dieu ne répond pas » Ou est-ce que vous allez faire comme Jésus nous demande de persévérer dans la prière jusqu'à temps que Dieu ouvre la porte? La version originale, d'ailleurs, insiste beaucoup sur la persévérance. Donc ici, on a lu dans la version seconde, mais je vous lis la version Parole vivante, le verset 7. Cette version met en relief le temps original grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Donc elle dit ceci, « Demandez, continuez à demander ». Vous voyez, cette notion de persévérance, elle est dans le verbe. « Et vous recevrez, cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez, frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. » Alors, en fait, ces premières paroles de Jésus déjà nous orientent vers la persévérance. Continuez à demander, persévérer, frapper. Persévérer signifie continuer à croire alors que tous les éléments semblent contraires ou on n'a pas d'encouragement. Persévérer, c'est pouvoir continuer à avancer même dans l'obscurité. Nous avons ce bel exemple d'Abraham qui était un homme de foi et de persévérance dont il est dit qu'il espéra contre toute espérance, c'est-à-dire au-delà des espérances humaines, il continua à espérer. Alors, une autre version dit, alors que tout lui interdisait d'espérer. Voilà le type d'espérance que nous devons rechercher. C'est cette persévérance qui vous permettra d'aller plus loin et de ne pas rester là où vous en êtes, mais elle vous permettra de continuer à avancer et de franchir des obstacles. Sans cette persévérance, vous serez arrêté, vous arrêterez de prier, vous ne viendrez même plus à l'église, vous quitterez le Seigneur, parce que c'est la persévérance en lui qui nous permet de continuer à avancer. Alors on a besoin de persévérer. Et pour persévérer et que ça se fasse dans la durée, il nous faut développer une écoute active de Dieu. Il y a beaucoup de sons dans la nature que nous n'entendons pas. C'est ce qu'on appelle les ultrasons. Par exemple, les chiens ou les dauphins entendent des sons très aigus que nous n'entendons pas. Ils ont donc développé une ouïe au-delà de l'ouïe humaine, une ouïe beaucoup plus étendue. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons développer une audition supérieure, c'est-à-dire entendre les sons de Dieu. Ce sont les sons de Dieu, les paroles de Dieu, les promesses de Dieu dans notre cœur qui vont nous permettre de nous appuyer sur ces paroles pour persévérer. Donc développons notre oreille spirituelle afin de recevoir sa parole. Quand le temps passe et que vous voyez avec vos yeux le contraire des promesses de Dieu, les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien, développez cette oreille spirituelle pour entendre la parole de Dieu qui dit « Prends courage mon enfant, tiens bon, continue, je vais pourvoir. » Ces paroles-là, elles viennent d'en haut, elles viennent du Seigneur. Alors même si vos yeux ne voient pas, vous pouvez développer votre oreille et écouter le Seigneur. Maintenant, le premier point, c'est à qui s'adresse-t-on quand on prie ? À qui s'adresse-t-on ? Quand tout va mal, La plupart des gens, croyants ou non, se tournent vers Dieu ou vers le ciel pour prier ou chercher une solution. Mais quand tout va bien, la plupart des gens ne pensent même plus à Dieu, ne s'intéressent pas à Dieu. Maintenant, si vous avez un enfant et que votre enfant ne vient vous voir que pour vous demander de l'argent, par exemple, il ne vient vous voir que pour vous demander de l'argent ou quand il a besoin d'argent, ben, au bout d'un moment, ça va gêner dans la relation. Vous avez besoin de vous voir dans d'autres circonstances. Et si vous n'allez voir Dieu que quand vous avez un besoin, et si vous n'allez voir Dieu qui est votre Père que quand vous avez un besoin, ben, c'est un peu la même chose. La relation, elle ne va pas être très développée. Et Dieu n'aime pas ce type de relation. Or, Dieu est notre Père. Il y a une des prières les plus connues de Jésus qui commence ainsi, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc notre Père, il est à la fois proche de nous parce qu'il vient nous consoler quand nous sommes en souffrance, donc il répond à nos besoins affectifs, c'est comme un Père, mais en même temps, il est au ciel, c'est-à-dire il est tout-puissant, il est au-delà de la nature humaine, on peut s'attendre à tout de sa part, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, et quand on prie, on doit avoir un saint respect de sa présence. Alors quand nous prions, nous devons d'abord réaliser à qui nous nous adressons. Nous nous adressons à Dieu comme un Père, mais en même temps, c'est la plus haute autorité qui existe dans l'univers. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors c'est vrai que chaque pays a son président ou son roi. C'est la plus haute instance dans le pays. Mais nous, au-delà des instances humaines, nous tournons les yeux vers le Seigneur qui est au ciel. Et Jésus a dit, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est vers Jésus, vers Dieu que nous tournons nos regards. Dieu seul est capable d'exaucer nos prières. Il en a le pouvoir. Dieu est le créateur. Il a créé l'univers par sa parole. Tout ce qu'il contient. Il peut même changer les lois naturelles. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais que Dieu peut changer. Je vous donne un exemple. À un moment donné, le peuple d'Israël était en difficulté. Et Josué a fait une prière audacieuse. Il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil dans sa course. C'est pas possible. On ne peut pas arrêter le soleil. Personne ne peut arrêter le soleil, bien sûr. Et il a prié Dieu d'arrêter le soleil. Donc la journée a duré beaucoup plus longtemps parce que les lois naturelles qui font que les journées durent 24 heures ont été momentanément arrêtées par Dieu. Donc Dieu est tout puissant sur sa création, il peut même changer les lois de la nature. Alors quand nous prions, nous nous adressons à un Père qui nous aime et à un Dieu tout puissant. Dieu veut le meilleur pour nous. Alors ne soyez pas comme ces gens qui disent « Ah oui, s'il m'arrive tel malheur, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu me punit, parce que Dieu aime me faire souffrir. » Alors il y en a qui vivent avec cette notion d'un Dieu qui se plaît à les faire souffrir. Ils vivent comme ça dans cette vision de Dieu. On a quelques exemples dans la Bible, je pense aux frères de Joseph, les frères qui avaient trahi Joseph, qui l'avaient vendu comme esclave. Joseph, entre-temps, s'est retrouvé à la tête du pays d'Égypte, et il y avait la famine là où vivaient ses frères, donc en Canaan, et ils sont venus chercher auprès de Pharaon de la subsistance, quelques nourritures, du blé, pour survivre. Ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph qui était là devant eux, l'intendant tout de suite après Pharaon, et Joseph a replacé avec les sacs de blé qu'il leur a donné, leur sac d'argent. Et quand en chemin ils se sont rendus compte qu'il y avait leur argent dans les sacs de blé, ils se sont tournés vers Dieu et ils ont dit « Mais oh Dieu, mais qu'est-ce que tu nous as fait encore ?» Comme si c'était Dieu qui leur causait tous leurs problèmes. Ils oubliaient qu'eux-mêmes, ils avaient causé des problèmes à Joseph, ils l'avaient entraîné, vendu comme esclave, ils avaient fait beaucoup de mal et ils remettaient sur Dieu encore tous les problèmes qui leur arrivaient. Voyez un peu cette démarche des croyants qui remettent sur Dieu tous leurs problèmes qui arrivent, mais en fait ces problèmes c'est souvent les conséquences de notre propre décision, de nos propres choix, de nos péchés. Ici c'était bien ses frères qui avaient vendu Joseph, donc ils avaient mal agi, ils étaient pécheurs. Et là, ils étaient repris, mais ils reportaient tout ça sur la faute de Dieu qui leur voulait du mal. Alors Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas l'auteur de la guerre, Dieu n'est pas l'auteur de la famine, Dieu nous veut du bien. Mais tout ça, on voit bien que c'est les conséquences du péché. L'homme est méchant par nature, il fait le mal, il est égoïste. Il veut dominer, c'est pour ça qu'il y a les guerres, pour ça qu'il y a la maltraitance. Mais regardez le psaume 73, verset 1, voilà ce que Dieu est. Oui, Dieu est bon pour Israël. Voilà comment est notre Dieu. Il est bon. Le Nouveau Testament dit, il est amour. Il veut notre bien. Pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, et Jésus dit aussi qu'il connaît nos besoins. Alors ça, c'est un petit peu étrange. Alors pourquoi est-ce que nous allons prier Dieu alors que Jésus nous dit, mais il connaît déjà vos besoins? Pourquoi prier dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement pour témoigner notre confiance en Dieu, à celui qui peut tout faire, qu'il va répondre. Et puis, prier selon sa volonté. Prier selon, véritablement, ce qui est sur son cœur. C'est-à-dire que plus vous allez être en communion avec Dieu, plus vous allez prier selon ce qui est sur le cœur de Dieu, et ça sera très bon pour chacun de nous. La prière, c'est d'abord l'expression de la foi. On dit « Oui, Seigneur, tu sais tout. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant, mais je te confie mon besoin et je crois que tu vas entendre et que tu vas pourvoir. » Alors, comment doit-on prier? Ici, au verset 7, on a lu tout à l'heure, c'est d'abord la persévérance. On va exposer nos besoins à Dieu. La prière doit venir de notre cœur. Ben, malheureusement, on se rend compte que beaucoup de chrétiens se sont servis de la prière du Notre Père, qui est une très bonne prière, mais comme une récitation. Et ils la font tous les jours, comme si cela était une récitation à faire tous les jours. Or non, la prière du Notre Père, c'est juste un modèle qui nous sert de canevas pour prier, mais nous devons prier avec notre cœur et avec nos mots à nous. Et donc chacun doit faire sa propre prière, et non pas tous répéter la même prière. Et justement, dans le même contexte de cette prière du Notre Père, Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, ne rabâchez pas toujours les mêmes paroles, ne répétez pas toujours la même prière, parce que vous allez le faire de manière mécanique et cela n'aura pas d'impact. Donc non, ce n'est pas la manière de prier. Alors, Paul nous recommande, voilà comment nous devons prier dans Philippiens 4, verset 6. Il nous demande de faire connaître nos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, il ne faut pas oublier les actions de grâce. Qu'est-ce que c'est les actions de grâce? C'est simplement de dire merci au Seigneur pour ses bénédictions, pour ses grâces. Et on peut même dire merci par avance pour les choses qui vont venir aussi. Donc, les actions de grâce, c'est s'entraîner à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Mais avant même de prier dans Philippiens 4, 6, Paul met un doigt sur quelque chose que nous devons traiter dans notre vie, ce sont les inquiétudes, les pensées qui nous agitent. Et Paul commence par dire « ne vous inquiétez de rien ». Avant même de prier, nous devons donc nous décharger sur Jésus de tous nos soucis et ne pas nous inquiéter et ne pas ressasser dans notre esprit tous les problèmes. Parce que ces pensées, en fait, elles vont prendre racine et devenir très puissantes. Et c'est pourquoi même certains n'arrivent plus à dormir parce qu'ils ont laissé les pensées, l'agitation, les difficultés, pas de solution, et on y pense, et on y pense, et on y pense. Or, nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. C'est pourquoi il dit « ne vous inquiétez de rien ». Jésus en a parlé des inquiétudes. « Qui de vous, dit Jésus, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie ?» Les inquiétudes sont donc à bannir. Et si nous ne le faisons pas, alors oui, vous allez prier, mais ces inquiétudes vont vous poursuivre et vous pourchasser toute la nuit parce que vous leur donnez de la force quand vous les entretenez. Et en fait, c'est en les sortant de notre esprit qu'on les affaiblit, qu'on les rend inopérantes. Ainsi, les soucis ne pourront plus agir sur votre cœur, sur votre âme, mais ils seront tenus à l'écart, et là, vous pourrez prier librement. Donc, apprenons à nous décharger de nos soucis. Au contraire, si nous entretenons des pensées où on dit que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, certainement le Seigneur n'agit plus, il nous a oubliés, Et si on entretient ce type de raisonnement, eh bien, on se bloque nous-mêmes dans une voie sans issue et il n'y a pas de bénédiction, on se prive des grâces de Dieu. Alors, quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous priez, vous vous humiliez devant Dieu. Et cela plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on prie, on reconnaît que l'on n'est que poussière et qu'on vient vers le Dieu créateur pour lui demander son secours et sa grâce. Vous reconnaissez que vous n'avez pas la solution, mais vous croyez que Dieu, lui, il peut tout faire. Ça, c'est s'humilier devant Dieu. Le monde ne connaît pas la prière. Le monde voit la prière comme une faiblesse. Et en réalité, pour nous chrétiens, la prière, c'est une force, c'est une puissance, c'est glorieux. Donc, quand vous priez, vous entrez en communion avec le Dieu créateur. Et vous lui dites, Seigneur, je reconnais que je ne suis rien, mais je crois que tu peux tout faire. Et là, vous vous humiliez devant Dieu, et cela plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que toute la gloire revient à notre Seigneur. C'est ça aussi, la prière, c'est reconnaître que tout nous vient de Dieu. Ensuite, un autre élément, c'est que nous devons ajouter la foi au verset 9. Ajoutons la foi à la prière, quand il dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Oui, l'enfant qui vient voir son père ou sa mère pour demander du pain, il s'attend à recevoir ce qu'il a demandé. Il a une foi simple, une confiance, on pourrait dire. Il a confiance en ses parents, que ses parents ne vont pas lui donner un serpent, il dit, ou un scorpion, quelque chose qui va lui faire du mal, mais ils vont lui donner ce qu'il demande. Voilà l'attitude de l'enfant qui vient vers son père pour demander. Eh bien, c'est la même chose pour nous chrétiens, la confiance que Dieu va pourvoir à nos besoins. Vous voyez, l'enfant qui vient voir ses parents, que ce soit son père, sa mère, il ne se pose pas des questions sur l'inflation, l'argent qui vaut moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, les problèmes économiques, le compte en banque, est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Tout ça, ça lui échappe. En réalité, ce sont des problèmes qui ne sont pas de son ressort. Mais lui, il vient tout simplement avec sa confiance dans son père ou sa mère pour qu'il pourvoie à son besoin. Donc, on n'a pas besoin de tout comprendre, de tout connaître, mais simplement venir à Dieu avec foi et lui faire confiance pour qu'il agisse. La foi, c'est croire que Dieu a entendu notre prière et qu'il répondra. Dieu est un père et il répond de la meilleure manière. Il y a quelque chose que nous devons apprendre avec Dieu, c'est que Dieu ne dit pas oui à toutes nos prières. Dieu ne dit pas oui parce que nous prions. Dieu peut dire oui, mais Dieu peut aussi dire non. Et Dieu peut dire attends. Donc il y a toujours une réponse possible qui est différente de celle qu'on espère. C'est possible. C'est possible que ça soit oui, mais c'est possible que ça soit non. Et donc, il nous faut aussi apprendre à accepter la réponse de Dieu, parce que si Dieu a dit non, alors ce n'est pas la peine d'insister si ce n'est pas sa volonté, si ce n'est pas sa direction. Après, on prend un risque et on peut s'égarer à forcer une porte. Alors, nous devons être attentifs, c'est-à-dire avoir un esprit tourné vers Dieu et une sensibilité spirituelle, un discernement. Seigneur, montre-moi ta volonté. Je prie, mais montre-moi ta volonté. Et si ce n'est pas ta volonté, que la porte se ferme à ce moment-là. Mais on doit faire confiance à Dieu. Alors, pour associer la foi à la prière, je lirai Marc chapitre 11, verset 24, qui est un beau verset pour nous montrer l'importance de la foi quand nous prions. C'est Jésus qui enseigne toujours. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors ce verset est extraordinaire parce qu'on y retrouve les trois temps de Dieu. Vous avez la foi au présent, donc il dit croyez maintenant, vous devez croire au présent. Il y a le passé, vous l'avez reçu, c'est quelque chose qui est acté spirituellement, alors que pourtant ça n'est pas encore physiquement dans le monde matériel, mais déjà dans votre cœur, vous pouvez l'avoir reçu comme une certitude. Donc il dit au passé, vous l'avez reçu. Et puis au futur, vous le verrez s'accomplir. C'est le temps, le troisième temps. Présent, passé, futur. Tout ça dans le même contexte de la prière de la foi. Quand vous priez dans la foi, à la fois vous êtes dans le présent, dans le passé, dans le futur. Vous recevez les promesses de Dieu dans votre cœur, vous devez les nourrir Et il y a le temps de Dieu qui est le temps de l'accomplissement. Mais ça, ça ne nous appartient pas. Donc, on peut déjà croire et avoir reçu. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons avoir dans notre cœur. Pour l'accomplissement, eh bien, c'est la part de Dieu. Parce que Dieu vous fait une promesse. Et avec Dieu, souvent, il ne vous dit pas quand ça va arriver ou comment ça va se produire. Il dit simplement, vous le verrez s'accomplir. Mais nous, on aimerait bien savoir, mais quand, Seigneur? Et comment est-ce que tu vas faire pour l'accomplir? Ça, c'est ce qui nous travaille le plus. Et le Seigneur nous demande d'abandonner cela entre les mains de Dieu, parce que Dieu peut agir instantanément. Oui, il l'a fait dans de nombreux cas, que ce soit des guérisons, des délivrances. Si on prend la multiplication des pains, Jésus a prié, et les pains et les poissons se sont multipliés. Il n'y a pas eu de délai. Donc Dieu est capable d'agir instantanément, là, au moment où nous prions, mais Dieu peut aussi laisser un certain temps avant de répondre. On a cet autre exemple d'un exaucement différé dans le cas de ces 10 lépreux qui viennent voir Jésus dans la prière et qui disent « Oh Seigneur, aie pitié de nous !» Jésus ne prie pas à l'instant même pour eux et il leur dit « Allez retourner vers Jérusalem. » Il y avait donc un long chemin pour retourner là-bas. Et aller voir le sacrificateur. Mais ils n'ont pas reçu la prière et ils n'étaient pas guéris. Et ils sont repartis malades. Et c'est alors qu'ils approchaient de Jérusalem, donc au bout d'un certain temps, que la guérison des 10 est survenue. Et qu'un seul des 10 a fait demi-tour pour venir rendre gloire à Dieu. Il y a eu un différé. Il peut y avoir un temps différé qui est plus ou moins long, parce que l'exaucement appartient à Dieu. Il y a un temps, un timing de Dieu, un timing que Dieu a prévu, et nous, notre part, c'est d'attendre l'action de Dieu. Et puis, un autre élément dans ce passage, c'est de prier avec persévérance, parce que quand on prie, on est parfois découragé, parce qu'on ne voit pas la réponse arriver. Alors, c'est encore pire quand la situation se dégrade, parce que encore quand on prie et qu'on voit des petites améliorations, on se dit « Merci Seigneur », ça nous encourage à prier. Mais imaginez que vous priez pour un besoin et que la situation se dégrade. Et plus vous priez, plus la situation se dégrade. La maladie s'aggrave. Alors ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que vous avez l'impression que c'est le contraire de vos prières. Plus vous priez, plus les portes se ferment. Plus vous priez, plus vous êtes rejeté dans votre famille. Bref, vous vivez le contraire. Alors le diable, il vient à ce moment-là pour vous décourager, vous dire, bah, tu vois, plus tu pries, plus ça se passe mal. Donc arrête de prier. Alors ça, il faut pas l'écouter parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et s'il arrive à vous faire arrêter de prier, eh bien il a gagné parce que vous ne persévérez pas. Il sait que si vous persévérez, contrairement à ce que vous pensez, lui, il sait que si vous persévérez, vous verrez la bénédiction. Donc il va tout faire pour que vous ne persévériez pas. Et il va vous dire, ça sert à rien, ton cas s'aggrave, mieux vaut prendre du recul et ne plus venir à l'église ou s'écarter du Seigneur. Mais lorsque vous persévérez dans la prière, alors que vos yeux voient tout le contraire de ce que vous attendez, en fait, vous êtes en train de passer un cap qui va vous permettre de franchir un palier et d'aller plus loin. C'est cette persévérance qui vous permet de franchir des oppositions, des obstacles qui sont là. Et la prière de persévérance va en triompher. Je vous donne un exemple d'un chêne. Si vous avez un chêne, par exemple, dans votre jardin, vous avez un immense chêne, si vous voulez l'abattre, vous prenez une hache, vous donnez un coup de hache sur le tronc, le chêne ne va pas tomber, n'est-ce pas? Un coup de hache ne suffit pas. Il va falloir persévérer. 2 coups, 3 coups, 10 coups, mais au bout de 100 coups, peut-être 200 coups, il va finir par tomber. Maintenant, si vous arrêtez au bout de 3 coups, 4 coups, et vous dites, ben voilà, ça marche pas, cette hache, elle ne coupe pas, ou l'arbre est trop solide, j'abandonne, bien il ne tombera pas. Mais c'est la persévérance, le fait d'y revenir. Donc la prière, comprenez, c'est un petit peu comme une hache qui est en train d'avancer, c'est en train de tomber, mais ça va finir par tomber, et il manque encore quelques coups de hache, il faut continuer à prier dans la foi. Je vous donne l'exemple d'une histoire vraie qui est arrivée au début des années 1900, c'est une femme qui s'appelait Hélène Biolay, une chrétienne suisse. Elle a eu à cœur de la part de Dieu de venir en France. C'est en 1909. Elle s'est installée au Havre et là, elle a eu à cœur de la part de Dieu de s'occuper des gens qui étaient dans l'alcool, des bas tombés, des ivrognes. Et elle a ouvert un café-restaurant qu'elle a appelé le Ruban Bleu, c'est-à-dire un hôtel-restaurant, mais sans alcool. Et elle invitait des prédicateurs pour prêcher la parole de Dieu. Et son sujet de prière, donc en 1909, c'était « Persévérer dans la prière pour que le réveil souffle sur la France ». C'est un beau sujet, mais elle a persévéré. Elle n'a rien vu pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle invite un certain Douglas Scott, qui est un Anglais, qui était de passage pour apprendre le français, et se rendre au Congo pour être missionnaire. Et puis, c'est en 1927 qu'il est venu une première fois. Le projet qu'il a eu, donc il est parti là-bas, il est revenu en Angleterre, mais ça n'a pas abouti. Et du coup, en 1930, il est revenu une deuxième fois. Il a à nouveau prêché la parole de Dieu dans cette ville du Havre. Et là, finalement, cet appel qu'il avait pour le Congo s'est redirigé vers la France. Et il y a eu un réveil de Pentecôte qui a commencé dans cette ville du Havre avec ce prédicateur anglais, Douglas Scott, soit 21 ans de prière après que cette sœur Hélène Biolay a commencé à prier en 1909 jusqu'à 1930. Il y a eu donc 21 ans de persévérance dans la prière. Et après, ça a été l'explosion. Il y a eu beaucoup de personnes converties, beaucoup d'âmes sauvées parce que l'œuvre de Dieu s'est faite. Voyez l'importance de la persévérance. Alors, presque tout le monde a oublié cette histoire de cette femme, Madame Biolay. Tout le monde a retenu l'évangéliste Douglas Scott qui a ouvert des églises et qui a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais en réalité, cette persévérance dans la prière, elle était tellement importante, elle était nécessaire. Et c'est notre part. Persévérons dans la prière. Il y a le temps de Dieu, il y a la bénédiction qui arrive, mais nous persévérons. Je termine avec l'exaucement au verset 11. Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors notre part, c'est bien sûr la prière de la foi, la prière de persévérance. Et la part de Dieu, c'est l'exaucement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Il y a toujours un temps de Dieu, frères et sœurs. Il faut simplement comprendre qu'il y a le temps favorable. Et ce temps-là, c'est Dieu qui le décide. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Jacques dit ailleurs que nous devons être patients comme un laboureur. Il dit, le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre. Il ne perd pas courage. Quand il a fait ses semailles, il ne se décourage pas parce qu'il ne voit rien. Il attend tout simplement la récolte. Eh bien, il dit, nous, chrétiens, nous devons être comme ce laboureur qui attend patiemment, confiant que la récolte va arriver. Donc, pour nous, c'est la réponse de Dieu qui viendra. Alors, vous pouvez peut-être dire, oui, mais ça, c'est vrai pour les autres. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Afrique, ici, à gauche, en Chine. Mais pour nous, ça marche pas. Mais regardez Marc 11, 23, parce que si vous ne croyez pas dans les promesses de Dieu, ça peut pas marcher pour vous. Marc 11, 23 dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus insiste bien sur ce rejet de l'incrédulité qu'il ne doute pas dans son cœur. Il dit, ça marche pas, on n'y arrive pas, c'est pas vrai pour nous, ça marche ailleurs, mais pas pour nous. Donc là, on est en train de douter, on est dans l'incrédulité. Alors finalement, la chose, bien, ne fonctionne pas. Mais nous devons rejeter cette incrédulité et croire que ce que nous disons, eh bien, ça va arriver. Autrement dit, si vous ne croyez pas dans les promesses de Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à l'exaucement de vos prières. David d'ailleurs ajoute un autre obstacle à l'exaucement que je voulais mentionner, c'est psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Ça c'est important parce que David met le doigt sur un sujet, si j'avais conçu l'iniquité ou du péché, s'il y avait un péché non confessé dans mon cœur, s'il y a des choses que je n'ai pas réglées avec Dieu, eh bien, il y a comme un obstacle entre ma prière et Dieu. C'est-à-dire, je vais prier, mais il y a cet obstacle, il n'est pas réglé. Il faut que je confesse mon péché. Parce que Dieu désire une vraie relation avec nous, il désire être en communion avec nous, mais il faut régler le problème du péché. Si on a cette résistance, c'est qu'il y a quelque chose à régler dans la prière et nous devons sonder notre cœur. En tout cas, David l'a fait pour lui-même. Il a demandé au Seigneur de sonder son cœur et il n'avait pas d'iniquité dans son cœur. Que Dieu nous aide à mettre tout en lumière devant sa face. On va terminer par la prière. Peut-être vous êtes aujourd'hui face à une situation sans issue. Recherche de travail, peut-être la maladie vous a frappé, ou une situation financière difficile. Mais Jésus, je vous rappelle simplement le premier verset dans la version Parole vivante, « Demandez, mais continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, mais persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, mais insistez, et la porte sera ouverte. » Donc notre part à nous, c'est bien de persévérer dans la foi, dans la prière. La part de Dieu, c'est l'exaucement. Ça nous échappe. C'est la chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on doit abandonner au Seigneur. Que Dieu nous aide. Merci encore pour ta parole. Merci pour ce chemin de la persévérance dans la prière que tu nous enseignes. Et je te prie pour mon frère ou ma sœur qui s'est peut-être relâché, qui a peut-être même abandonné la prière parce qu'il n'a pas vu l'exaucement et il est découragé en ce jour. Mais je te prie, Seigneur, pour qu'aujourd'hui il reprenne la marche, il reprenne courage en s'appuyant sur ta promesse, qu'il puisse nourrir son cœur de ta promesse dans ta parole, afin de pouvoir avancer en développant cette écoute spirituelle, en écoutant ta voix, en écoutant tes promesses, parce que tu as encore des bénédictions en réserve pour chacun. Et nous te remettons tous ceux qui sont dans une situation difficile. Oh, toi, tu as les solutions, Seigneur. Oh, toi, tu es plus grand, nous voulons déposer aux pieds du Seigneur tous nos fardeaux, nos soucis, en disant « Toi-même, tu prends soin de nous ». Merci de veiller sur chacun, de permettre encore des bénédictions, des victoires dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.